toute planète a une vitesse de libération. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons vous avez un canon qui tire à la perpendiculaire de la Terre. Imaginons qu'il n'y a pas de résistance d'air. Bon, vous tirez en haut et au bout d'un moment, votre projectile tombe en bas. Alors vous dites, ah, mais je vais tirer plus fort. Et vous tirez plus fort. Et plus vous tirez fort, et plus l'objet monte en haut, et met plus de temps pour retomber. Donc il arrive fatalement un moment, si vous atteignez une vitesse suffisante, ce corps s'en va, quitte la Terre. Cette vitesse de libération est caractéristique de la Terre, comme de toute autre planète, et vaut pour tous les corps, qu'ils soient petits, grands, etc. Vous voulez envoyer la navette Apollo, ben, il faut arriver à 40 000 km à l'heure. Voilà les vitesses de libération. La Terre, 11,2 km par seconde, ça fait, vous pouvez multiplier par 3600, ça fait 40 000 km de l'heure. Je prends un kilomètre par seconde parce que c'est des nombres plus petits, donc plus lisibles. C'est très normal que Jupiter, Saturne, etc., les planètes les plus grandes, aient des vitesses de libération beaucoup plus élevées, alors que Mercure, par exemple, ou la Lune, ont des vitesses très faibles, une fraction de celle de la Terre. Qu'est-ce que tout cela vient voir avec les gaz? Alors, il nous faut un deuxième concept. La vitesse avec laquelle les molécules d'un gaz bougent. Vous prenez un gaz comme l'atmosphère, dans lequel se baladent molécules de toutes sortes, de toutes tailles. Toutes ces molécules ont la même énergie de mouvement. Qu'est-ce que c'est l'énergie de mouvement? Bon, moi je l'explique comme ça. Vous prenez un vélo et puis vous freinez à toute force et puis vous allez mesurer de combien vos freins se sont réchauffés. Puis vous prenez une voiture à 150 km à l'heure, vous faites la même chose, vous allez mesurer la quantité de chaleur développée dans les freins à disque. Vous prenez un train, pareil, vous allez mesurer en l'arrêtant, disons, à 120 km à l'heure, vous voyez combien de chaleur les freins développent. Cette quantité de chaleur est la quantité d'énergie de mouvement. Donc, il ressort de cet exemple misérable que si un corps léger et un corps beaucoup plus lourd ont la même vitesse, ben, le corps plus lourd a une énergie de mouvement beaucoup plus élevée, c'est-à-dire il est beaucoup plus difficile à stopper. Et quand je dis que dans l'air, toutes les molécules de gaz ont la même vitesse, cela implique que les molécules plus légères vont beaucoup plus vite que les molécules plus lourdes. Exemple, ici nous avons notre atmosphère et on a les vitesses en kilomètres par seconde de molécules très légères comme l'hélium ou aux molécules plus lourdes comme le CO2 par exemple. Il y a des différences de vitesses moyennes. C'est pas très évident tout ça. On va faire un petit exemple. On prend l'hydrogène à 6000 degrés, donc sur le Soleil, il bouge avec une vitesse de 11 km et demi par seconde. Alors la vitesse de libération du Soleil, c'est 600 km par seconde, on peut voir tout de suite que l'hydrogène reste collé au Soleil. Il ne peut pas s'échapper. Prenons maintenant la Terre. La Terre, dans la couche supérieure, elle a une température très élevée. Donc l'hydrogène qui se trouve là à 1000 degrés, en réalité il est à 1200. Il a une vitesse moyenne de 5,4 km par seconde. La vitesse de libération de la Terre, on vient de le dire, c'est 11,2 km par seconde. Donc on dirait que l'hydrogène ne peut pas s'échapper de la Terre. Mais il y a un truc, c'est-à-dire qu'il faut, la vitesse moyenne soit 6 fois plus petite que la vitesse de libération pour que les gaz restent sur la planète. Donc, on voit maintenant que l'hydrogène s'en va de la Terre et on voit aussi que l'hydrogène ne s'en va pas de Saturne, par exemple. Là, vous avez 1 km/s par seconde, la vitesse des molécules d'hydrogène, et vous avez 35 km/s par seconde, la vitesse de libération. L'explication du facteur 6, c'est que quand on parle de vitesse moyenne des molécules, c'est une vitesse moyenne. Donc, il y en a toujours une partie qui sont beaucoup plus rapides et une partie qui sont beaucoup plus lentes. Et donc, celles qui sont beaucoup plus rapides, vous voyez la courbe là-haut, la partie plus rapide, elle s'échappe. Et si vous avez un gaz sur, dans l'atmosphère terrestre, et puis ce gaz, même une petite partie de ce gaz s'échappe, à la longue, il va disparaître. Résumé. On a dit, le soleil s'allume, et autour, les autres matériaux continuent de s'agréger pour former des planètes, des astéroïdes, etc. Ensuite, le vent solaire commence à dégager l'espace entre les planètes, donc le processus d'accrétion s'arrête. Toutes les météorites et les autres corps qui ne sont pas sur une orbite régulière, tôt ou tard, sont capturés par des planètes plus grandes, par les planètes plus grandes. Les planètes elles-mêmes se refroidissent parce que le processus de formation, si une planète est formée par des gros rochers qui continuent de lui tomber dessus, c'est clair qu'il se réchauffe. Donc à l'origine, la Terre était très chaude. Mais au bout d'un certain temps, elle arrive à une température qui est la température d'équilibre entre la chaleur qu'elle reçoit du Soleil et la chaleur qu'elle dégage. Et on a vu que les planètes plus grandes et plus froides peuvent retenir des gaz plus légers, alors que les planètes plus chaudes et plus petites ne peuvent pas les retenir. On a déjà un bon bout d'explication, si vous voulez. Je saute à la composition de Jupiter. Vous voyez, au milieu de Jupiter, ça, c'est le noyau rocheux. Ensuite, il y a de la glace, ensuite, il y a de l'hydrogène métallique, ensuite, il y a de l'hydrogène liquide, et en atmosphère, un peu d'hydrogène gazeux. Donc, vous voyez, ce n'est autre qu'une planète semblable à la Terre, sauf que la Terre a perdu son hydrogène et son hélium. Alors, la Terre, c'est juste un rappel, il y a un noyau en fer assez important, ça fait plus que la moitié du diamètre de la Terre, tout ça, c'est du fer, hein. Sauf qu'au centre, la pression est tellement élevée qu'en dépit de la température qui est de 6000 degrés, là, ce fer est solide. Mais là, on a une bonne quantité de fer liquide dans lequel peuvent circuler des courants électriques qui génèrent les champs magnétiques terrestres. On a une couche assez épaisse de rochers, on l'appelle manteau, si vous voulez. Là, la densité va de 10 à 15, et là, c'est une densité de l'ordre de 4-5. On a sur ce manteau rocheux, on a des plaques plus légères qui flottent, ce sont les continents. La croûte terrestre est très très mince finalement, elle fait que quelques dizaines de kilomètres. Et puis, il y a le mouvement des plaques, comme on le sait. Ces plaques étant flottantes, elles se déplacent très lentement. Et quand elles rentrent en collision, ben, une plaque passe par-dessous l'autre ou par-dessus l'autre. Et on a la formation de montagnes. Neptune, pareil. Donc, c'est toujours... Neptune étant un peu plus petit. Le noyau, cette fois, est un peu plus important. Mais le jeu est toujours le même. Donc de la glace, du liquide et l'atmosphère. Donc finalement, on a réussi à peu près à expliquer la différence remarquable qu'il y a entre les planètes suivant leur position par rapport au Soleil et suivant la taille qu'elles ont acquise au départ. On n'a pas parlé du tout du Soleil, c'est quand même important. Donc on a dit que les noyaux où... C'est notre fournaise à tous, parce que sans la chaleur du Soleil, il n'y aurait pas de vie du tout. Hein. Donc, ça concerne environ 10% de tous les hydrogène disponibles. Il y a une pression énorme. Cette chaleur se dégage du noyau et traverse une zone qu'on appelle zone de radiation, parce qu'elle n'a même pas de temps de bouger, si vous voulez. Elle est traversée par la chaleur directement. Ensuite, il y a une zone de convection, c'est-à-dire des liquides qui tournent ou des gaz qui tournent. Et puis, on a la partie extérieure qui reste quand même à 5700 degrés. C'est la lumière blanche à laquelle nous sommes habitués. Alors, notre Soleil consomme 100 millions de tonnes par seconde. Ça, comment on le sait? Ben, on a mesuré justement la chaleur qu'il irradie. On a multiplié par une grande sphère, si vous voulez. Et ensuite, avec l'équation d'Einstein, on a calculé combien de masse il faut faire disparaître pour générer toute cette puissance. Faut pas trop se préoccuper parce que, pratiquement, il y en a beaucoup d'hydrogène encore dans le Soleil. Mais ce qui est curieux, c'est que si on prend la masse du Soleil et on prend le 75% d'hydrogène et on prend le 10% du noyau qui peut brûler, ben on arrive pile à 10 milliards d'années. C'est ça l'âge prévu du Soleil. Dans un milliard d'années, bon, à l'origine, le Soleil était un peu moins chaud, il était 10% moins chaud. Maintenant, il est comme il est, et puis dans un milliard d'années, il sera 30% plus chaud, donc il n'y aura plus rien sur la Terre. Ah, notre Terre, c'est un endroit vraiment spécial. Elle se trouve juste dans la zone habitable, c'est-à-dire à cette distance du Soleil où les températures vont entre 0 et 100 degrés. Donc, où on peut avoir de l'eau, que ce soit à l'état liquide, à l'état de glace ou à l'état de vapeur. Quelques pourcents plus près du Soleil, il n'y aurait pas d'eau. Quelques pourcents plus loin du Soleil, la Terre serait une boule de glace. Donc, on peut dire qu'on est vraiment vernis. En plus, elle a la bonne dimension pour retenir une atmosphère. Vous voyez, Mars et la Lune ne peuvent retenir même pas aucune atmosphère que ce soit. Mercure est trop près, donc il est trop chaud. Et Vénus a eu de la malchance. On ne sait pas exactement pourquoi Vénus est si chaude et a perdu complètement l'eau, mais le fait est que c'est un endroit assez infernal. Juste pour rappeler que non seulement l'atmosphère terrestre est une couche, si on réduisait la Terre à la taille d'un ballon de basket, cette partie de la Terre qui héberge la vie est vraiment ridicule par rapport à la taille de la planète. Alors, voyons les autres qualités qui font si que la Terre est si agréable avec nous. On a parlé du noyau de fer qui génère un champ magnétique. Il génère aussi une certaine quantité de chaleur interne qui vient s'ajouter à la chaleur reçue par le Soleil. D'ailleurs, on le voit dans les volcans, dans les éruptions, etc. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais je vais le dire maintenant. C'est-à-dire que les volcans injectent dans l'atmosphère des éléments qu'autrement n'y seraient pas, par exemple de l'hélium ou par exemple de l'uranium. Des éléments qui auraient disparu de la surface terrestre sont renouvelés par les éruptions. La tectonique des plaques, elle renouvelle la surface des continents complètement. C'est-à-dire, en 500 millions d'années, un continent, une plaque disparaît. Et donc, la surface de la Terre, elle est continuellement renouvelée. Vous prenez une planète comme Vénus, par exemple. Bon, il y a 500 000 ans, la surface s'est formée telle qu'elle, mais il n'y a plus rien qui bouge. C'est des planètes mortes. On a des saisons agréables parce que l'axe de rotation est incliné sur l'écliptique, ce qui n'est pas le cas pour toutes les planètes, on l'avait vu à la conférence précédente. Et on a une atmosphère avec oxygène. L'oxygène n'existe dans aucune atmosphère. Il ne peut pas exister parce que l'oxygène est un gaz tellement réactif que dès qu'il est là, il oxyde quelque chose, il réagit avec quelque chose. C'est la vie sur Terre, donc les plantes essentiellement, mais aussi au départ de la vie animale, des bactéries, qui ont généré l'oxygène et qui les maintiennent, ce qui est plus important encore. Vous prenez n'importe quelle autre planète, sur Mars par exemple, l'oxygène, il a oxydé complètement les rochers qui sont rouges, et puis il n'y en a plus. Et sur Terre, si les plantes venaient à disparaître, on aurait l'oxygène durerait 100 ans. Nous, on serait mort peut-être un peu avant, mais après, il n'y en aurait plus. En plus de tout ça, l'oxygène participe avec les carbones et l'hydrogène. Là, il faudrait que je revienne en arrière. Mais quand on avait ces 6 éléments, on enlève les 2 qui sont inutiles, l'hélium et les néons. Mais les autres, les carbones, l'hydrogène et l'oxygène, on dirait qu'ils ont été fabriqués pour la vie, parce qu'ils ont des propriétés telles, on en reparlera peut-être une autre fois, c'est incroyable. Les carbones, par exemple, avec ces quatre pattes, c'est le seul qui peut former des molécules énormes, des molécules très très longues ou très très compliquées, comme doivent être les molécules vivantes. Il n'y a aucun autre élément qui peut faire ça. Donc, non seulement on a les bons éléments, mais on dirait que ces éléments, chacun, si vous voulez, a été mis là pour que la vie puisse exister. Ne me prenez pas pour un religieux. Ça, c'est un schéma de l'effet du champ magnétique de la Terre sur le vent solaire. C'est-à-dire, il y a toute cette quantité de particules que le Soleil éjecte, et pratiquement, nous avons un bouclier autour de la Terre, vous voyez, qui se déforme sous cette arrivée des particules, mais finalement, qui protège nous, et l'atmosphère et nous, de cette radiation qui est très, très nocive. De plus, attendez voir que je revienne en arrière un instant, grâce à la présence de l'oxygène, on a une couche d'ozone. La couche d'ozone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête les ultraviolets durs. Les ultraviolets durs, c'est un type de lumière qui a une énergie suffisante pour tuer les molécules vivantes. Vous savez que dans les gros élevages des poulets, on mettait des parcs de lampes d'ultraviolets pour tuer les germes, pour désinfecter. Donc, si les ultraviolets n'étaient pas arrêtés par la couche d'ozone, qui elle aussi est là à la bonne place, avec la bonne concentration et tout, nous, on serait pratiquement très endommagés par les ultraviolets. Que la Terre a 70% d'océans et d'océans et 30% de terre, on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est la quantité d'eau qui existe sur la Terre. Pour vous donner une idée, vous prenez un carré de 35 km de côté, et bien, il faut arriver jusqu'à la Lune pour faire un récipient qui contienne toute l'eau de la Terre. L'eau de la Terre peut remplir exactement la moitié de la Lune, si la Lune était une marmite. Évidemment, elle n'est pas tout. Bon, 98% de cette eau est dans les océans, et de ce qui reste encore 90%, c'est dans les calottes polaires, etc. Donc, c'est pas qu'on ait énormément d'eau à boire pour tout le monde, mais quand même, il y en a des quantités. Toutes les substances qui sont essentielles pour la vie sur Terre font partie d'un cycle régénérateur et parfaitement équilibré. La Terre n'est pas une planète statique. Je fais un saut brutal en avant. Là, des diagrammes comme... Je suis en train de me tuer. Des diagrammes comme ça, il y en a... Donc, vous voyez, j'en ai mis que 4. Vous avez les cycles... les cycles de l'eau, les cycles du carbone, les cycles de l'azote, les cycles de l'azote, et puis il y a les cycles de la chaleur aussi, c'est-à-dire il y a tout un bilan thermique de la Terre qui doit tourner comme une montre pour que tout aille bien. Je reviens en arrière. Et les points d'interrogation, c'est parce que j'ai certainement oublié quelque chose, donc au cas où. Donc, j'ai déjà dit que la présence d'oxygène dans l'atmosphère est essentiellement due à la vie. Alors, j'avais aussi dit que ces substances ont des qualités très importantes. Par exemple, l'oxygène, il est tellement spéciale. Bon, il lui manque 2 électrons, il est prêt à n'importe quoi pour avoir ces 2 électrons en plus. En réagissant avec notre substance, il développe 10 fois la quantité d'énergie que toute autre substance. Donc, quand vous prenez un moteur de voiture, quand vous prenez nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons du carbone, de l'hydrogène, nous le combinons avec de l'oxygène, nous rejetons de l'eau et du CO2. Que vous ayez votre voiture ou que vous ayez votre cycle de respiration, c'est exactement la même réaction qui se passe. Seulement que dans le corps, elle est tellement bien organisée qu'elle se développe graduellement. Alors que les moteurs, on dit que c'est un moteur à combustion, mais en italien, on dit un moteur à explosion. Donc, on peut se mettre d'accord. Et sur cette terre qui est déjà magique en soi-même, il y a une autre chose qui est encore plus magique, c'est l'eau. Alors l'eau, c'est vraiment de la grande invention. Hein. Si on ne l'avait pas, je ne sais pas ce qu'il faudrait vraiment inventer. Dans la molécule d'eau que vous voyez en haut, c'est une molécule, donc il y a un atome d'oxygène et deux petits atomes d'hydrogène. Elle est un petit aimant. Chaque molécule est un petit aimant, mais électrique, c'est-à-dire il n'y a pas un nord et sud comme dans un aimant, mais il y a un plus ou moins électrique, si vous voulez. Ça fait que les molécules d'eau ont tendance à coller les unes les autres, par exemple. Alors l'eau a une tension superficielle. Vous voyez l'insecte qui marche sous l'eau. Ça veut dire qu'autour d'une goutte d'eau ou à la surface d'une flaque d'eau, il y a une pellicule élastique. Les molécules se tiennent l'une l'autre. Alors, quand vous prenez un arbre, cet arbre a de petits vaisseaux très très minces. Cette pellicule si élastique va se coller à la paroi du canal de l'arbre et tire toute la colonne d'eau vers le haut. Et, je sais pas, il y a les séquoias, elles font 110 mètres, par exemple. Vous imaginez monter de l'eau à 110 mètres, alors qu'une pompe normale que nous utilisons ne peut pas monter plus que 10 mètres. J'ai déjà dit qu'il y en a beaucoup. Elle a une grande transparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire de la vie végétale dans la mer jusqu'à 250 mètres de profondeur. Trouvez-moi une autre substance. Il y a une énorme capacité thermique, c'est-à-dire que dès qu'on est à bord de la mer, on vit bien parce que le climat est beaucoup plus tempéré qu'à Paris, par exemple. Et on a une glace qui est plus légère que les liquides. Alors là, pour trouver une autre substance où la glace soit plus légère, où la phase solide, c'est-à-dire la forme solide soit plus légère que et la phase liquide, il faut chercher dur, dur. Hein. Et pourtant, notre glace d'eau est plus légère que l'eau liquide. Ce qui veut dire que la banquise polaire flotte, par exemple, ou quand il y a un lac de Genève, mettons, qui gèle, ben, il reste une surface glacée, mais l'eau en dessous ne bouge pas. Non seulement il est plus léger, mais il a un pouvoir isolant énorme, la glace, l'igloo. Donc, c'est-à-dire que cette couche de glace protège la vie sous-marine ou dans un lac. Elle a un grand pouvoir solvant, et c'est pour cela que dans les molécules, dans nos cellules, si vous voulez, une grande partie de la cellule est faite d'eau et toutes les substances qui doivent interagir, qui doivent aller d'un côté à l'autre, bouger, etc., elles se dissolvent et puis elles se recombinent toutes dans l'eau. Voilà. Oh, on peut peut-être allumer et puis répondre à quelques questions. Bon. J'ai fait de la vulgarisation, hein. Je ne fais pas des théories détaillées, parce que sinon, il faudrait, par exemple, sur l'eau, sur les propriétés de l'eau, ben, vous allez sur mon site internet, il y a 3 articles énormes. Oui ? Et alors, mon cher Jean-Pierre, je connais tes qualités en tant que fabricant de cocktails, mais moi, je suis interdit d'alcool. Alors, je n'ai pas pensé, mais j'avais quand même laissé un point d'interrogation quelque part. D'autres? Ne me dites pas que vous avez tout clair, parce que... Voilà, ou vous avez tout clair, ou vous avez tout confus. Vous êtes là pour décider. Le soleil ne peut pas exploser parce que, si vous voulez, c'est une question de taille. C'est-à-dire que lui, quand il aura brûlé tout son hydrogène, à prophète, c'est pas tout son hydrogène, il va brûler que le 10% qu'il y a au milieu. Ensuite, quand il aura plus d'hydrogène, il va brûler l'hélium. C'est-à-dire qu'il va combiner l'hélium avec l'hélium pour faire quelque chose d'autre. Après, il brûlera quelque chose d'autre. Après, il s'arrête. À ce moment-là, si vous voulez, c'est la taille de l'étoile qui décide. C'est-à-dire, quand le noyau d'une étoile cesse de brûler, toute la chaleur qui est utilisée pour garder gonflée cette boule, si vous voulez, cesse d'être produite, et automatiquement toute la périphérie de l'étoile, plouf, tombe vers le centre. À ce moment-là, il y a une augmentation de température importante, si vous voulez. Mais cette augmentation de température peut être assez élevée pour déclencher une explosion nucléaire ou pas. Alors, le Soleil étant plus petit, il va faire tout ça, c'est-à-dire il va s'arrêter un jour de brûler, et puis il va collapser, imploser, si vous voulez. Et à ce moment-là, il dégagera une grande vague de chaleur qui va souffler loin la partie périphérique, mais il va pas, la partie qui reste, les noyaux, ne va pas exploser. Alors, on a calculé, on a fait des théories, etc. On a trouvé qu'à 8 masses solaires, c'est le seuil pour avoir une explosion. Et après, si on parlera des étoiles, on verra que, une fois qu'on a l'explosion, suivant encore la masse de ce qui reste, on peut avoir soit un trou noir, soit une étoile de neutrons, qui est quand même un objet assez bizarre. Donc, la fin des étoiles, on la prévoit quand même assez bien en fonction de la taille. Toujours sujet à révision si on trouve quelque chose d'autre. Pluton, on pourrait dire comme ça, effectivement, si vous voulez, ben Pluton, je crois qu'il met 280 ans pour faire son tour. À ce stade-là, les collisions sont vraiment très rares, très très rares. Mais Pluton, quand je dis que ce n'est pas une planète, c'est aussi parce qu'il a une orbite qui ne ressemble nullement à une orbite d'une planète. Elle est complètement inclinée, elle est très excentrique, etc. Donc, c'est un des astéroïdes externes. Mais Pluton, c'est le seul qu'on n'a pas photographié encore. On n'a pas envoyé une sonde juste là. Mademoiselle? Oui? La glace sublime. Oui, on dit que la glace sublime. D'ailleurs, dans le tableau des liquides, il y avait le CO2 qui passe directement de l'état de glace à l'état gazeux. Le CO2 solide, c'est ce morceau de glace qu'on mettait jadis avec les glaces qu'on achetait. C'est pas comment on voit. La neige carbonique, voilà. Mais ça partait, mais ça faisait pas de liquide, ça mouillait pas. Voilà. Mais l'eau, non seulement elle passe, elle évapore, puis. Mais il y a, j'ai pas mentionné, il y a une chaleur de fusion, une chaleur d'évaporation qui sont aussi énormes. C'est pas pour rien qu'on transpire. Hein. Nous on transpire parce que le corps pour se libérer de la chaleur, il a pas mieux trouvé que faire sortir du liquide de l'eau partout et puis qu'elle évapore. Oui. Ouais, il ne permet pas pour différentes raisons. D'abord parce qu'il n'est pas aussi copieux. En fait, c'était de H2S. Hein, donc, le S, ce n'est pas un des éléments qui était dans les 6 plus abondants. Bon, maintenant, si on veut gratter, il n'est pas très loin. D'un autre côté, l'anhydride, je ne sais pas comment vous l'appelez, sulfureux, ah, parce qu'en plus il est masculin. Hein. Quand on regarde la température de fusion, etc., c'est 60-80 un degré absolu. Donc, si vous voulez, l'eau parmi les liquides, c'est celui qui a l'écart plus important entre la température de fusion et la température d'ébullition. C'est un écart énorme. Alors, il y a des théories à plus en finir pourquoi la molécule d'eau a cet immense écart entre les deux températures, etc. Oui. Elles construisent de la matière. Disons, en principe, au départ, ça fait un immense nuage de fumée et de produits qui part dans toutes les directions, quand même à 500 000 km heure. Hein. Donc, pouf, ça peut. C'est-à-dire, oui, tout à fait, hein, je n'ai pas dit ça, mais ce serait trop beau. En réalité, notre système solaire va mourir d'une mort douce. Le soleil va se refroidir, il va devenir un tison. Les planètes, par exemple la Terre, restera telle qu'elle. Seulement, elle sera très très froide. Mais elle ne sera pas détruite. Est-ce que j'ai répondu à la question? Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un système qui est très très délicat. Pendant que nous y sommes, faisons-y attention, parce que il suffit de rien. Je vous fais un exemple. Par exemple, la Terre, admettons que la Terre se refroidisse un peu, pour une raison X, Y. Il y aura plus de glace. La glace est blanche, donc elle renvoie dans les vides plus de chaleur, une dose supérieure de la chaleur qu'on reçoit par le Soleil. Donc on se refroidit encore plus. Et ainsi de suite, on arrive par un cycle comme ça, on arrive à un procès dégénératif qui amène la Terre à être une boule glacée, par exemple. Ce n'est rien de stable et définitif. Ou alors, on peut recevoir un gros météorite, mais ça, c'est une autre histoire. Mais les petites étoiles, elles meurent dans un temps énorme, dans un temps qui est beaucoup supérieur à la vie de l'univers. Donc, finalement, les petites étoiles, on n'en a pas vu mourir encore. Dans certains, bon, de la matière qui manque, peut-être pas. Elle ne sera pas regroupée, peut-être, sous la forme qui nous plaît. Mais c'est sûr que l'univers, il va en se dégradant. Mais c'est pas ça notre problème. Notre problème qui est primaire, je crois que c'est 5 millions d'habitants de plus par année sur la Terre. C'est bon, je vous ai pas gâché l'appétit. Alors, on va tous